Voilà, et ce matin, je vous invite à lire un psaume. Un psaume qui se trouve, page 713, c'est le psaume 85. Psaume 85. Alors, 713, si vous avez la Bible qui vous est proposée à l'entrée, ou ici, ou... Ah, voilà, on m'a annoncé que ce serait... affiché, peut-être pas tout à fait dans la même version, mais en tout cas c'est affiché. Il était très fier au fond. Voilà, mettre les bras au ciel. Ouais, voilà. Pardon ? D'accord, très bien. C'est parfait, c'est parfait. Merci Simon. Donc, alors effectivement, le premier verset nous dit ce qui est écrit ici, que c'est adressé au chef de cœur. Et c'est un psaume des Coréites ou des fils de Corée. Donc c'est un chant. Et il dit, Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Oh, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'un jeune âge? Ne voudras-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qu'il ne retourne pas à leur folle égarement. Oui, et tu vas bientôt œuvrer au salut de ceux qui le... Il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. C'est un psaume qui tourne dans ma tête depuis un certain temps. Quand je l'ai lu, j'ai été d'abord frappé par cette phrase qui dit, dans une version un peu différente, hein, peut-être semblable à celle qui était affichée, « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. » J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple, il parle de paix à ses fidèles. Qui n'a pas envie de paix? Qui n'a pas envie de vivre en paix? Qui n'a pas envie de connaître cette paix dans son cœur? Le Seigneur, l'Éternel, veut me parler de paix. Il veut me donner la paix. Il veut me faire vivre en paix. Mais cette paix, comment peut-on l'acquérir? Alors je me suis penché plus attentivement sur ce psaume, et depuis des semaines, depuis des mois, je le médite, je l'étudie, j'essaye de le comprendre. J'ai réalisé alors, en le relisant plusieurs fois et en méditant, qu'il se présente comme une liturgie dans l'approche de Dieu. Adoration, confession, écoute. Liturgie, c'est un mot qui gratte les oreilles dans notre monde évangélique. Voilà bien longtemps qu'on a abandonné la liturgie officielle dans nos cultes. Vous savez, cette liturgie qui consiste à savoir à l'avance quel texte on va lire, quel chant on va chanter, ce que la personne qui officie va dire, ce qu'on devra répondre. Mais vous savez, ce mot signifie simplement « ordre ». Le synonyme le plus proche de liturgie, c'est « ordre ». C'est l'ordre de nos cultes, qu'ils soient communs ou personnels. Et alors on se rend compte, quand on parle d'ordre, que même si l'on n'a pas de liturgie officielle dans notre Église, ben on suit quand même une certaine liturgie, un certain ordre non écrit dans le déroulement de nos rencontres entre nous et avec le Seigneur. Et alors, découvrir qu'il y a une liturgie dans le texte inspiré par l'Esprit de Dieu, ben, nous oblige à réfléchir sur notre manière de faire. Je suis aussi penché sur l'un ou l'autre commentaire, oh, pas énormément, hein, mais notamment celui de Timothée Keller sur le livre « Les psaumes de Jésus ». Ça me donne l'occasion de vous le recommander encore une fois, hein. Je vous le recommande à la lecture et à la méditation. Et j'ai constaté dans ces deux, trois commentaires que j'ai consultés que ce psaume est considéré comme un psaume de réveil. Et voilà un autre mot qui mérite d'être éclairci et défini. C'est quoi un réveil ? Les enfants ne le savent que trop, c'est ce qui sonne depuis la rentrée. C'est ce qui sonnera demain matin. C'est pas qu'on vienne au culte endormi, hein, qu'il faille nous réveiller. En tout cas, j'espère que vous vous endormirez pas au cours de la prédication, hein. Alors, le réveil, c'est ce qu'on voudrait jeter par la fenêtre, hein, le matin. Ce qui nous empêche de nous tourner dans le lit pour poursuivre notre nuit. Et voilà, vive les lundis, hein. Mais dans le sens dans lequel nous l'entendons, le réveil, c'est sortir de notre torpeur. De notre torpeur spirituelle, c'est revenir au Seigneur, c'est revenir à son enseignement, c'est renouveler notre engagement envers lui, renouveler notre service, renouveler notre piété, redécouvrir notre amour, notre premier amour pour lui. Et voilà pourquoi le titre de cette méditation, de cette prédication, c'est une liturgie de réveil. Et voilà ce qu'on trouve dans cette liturgie. D'abord, dans les premiers versets, on y trouve l'adoration. Une adoration qui est basée sur une réelle compréhension de la personne de Dieu et une réelle compréhension et une réelle expérience de son œuvre de salut en notre faveur. C'est ce qu'on a déjà évoqué, c'est ce qu'on a déjà chanté. C'est déjà pour cela qu'on a adoré et remercié Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur ce matin. Les raisons sont données dans ce psaume, les raisons de l'adoration. Et une des principales raisons qu'on trouve, c'est que Dieu n'est plus en colère contre nous. Est-ce que tu peux mesurer le poids et les conséquences de cette déclaration ? Dieu n'est plus en colère contre moi. La terrible colère de Dieu, cette colère que méritent tous mes actes d'impiété, toute ma rébellion contre lui, elle s'est déversée à la croix sur son Fils bien-aimé, sur Jésus-Christ, qui a accepté de porter notre péché, qui a accepté de porter mon péché, qui a accepté d'être puni à notre place, qui a accepté d'être puni à ma place. Et c'est rafraîchissant d'entendre dans une prière, merci d'être mort pour mes péchés. Grâce à Jésus-Christ, mon péché est pardonné. Ma faute est enlevée. Je suis rendu digne par Jésus de faire partie du peuple de Dieu, et plus encore que de son peuple. Je suis digne de faire partie de sa famille, d'être appelé de son nom. Je ne crains plus ni la colère, ni la condamnation de Dieu. Il me donne par Jésus-Christ son immense amour. Désormais, je suis l'objet de sa bienveillance. Il verse sur moi sa bénédiction avec abondance. Il renouvelle jour après jour ses bontés et ses compassions en ma faveur. Dorénavant, je vis dans l'attente de la félicité et de la gloire éternelle. Alors, quand le pardon et le salut de Dieu sont présents dans mon esprit et dans mon cœur, avec une force telle que L'adoration et la reconnaissance coulent de mon cœur. Il s'exprime avec aisance, avec vérité. On peut avoir des périodes difficiles dans notre vie. Et Israël a eu des périodes difficiles dans son histoire. Ce peuple que Dieu a choisi, ce peuple que Dieu a élu, ce peuple que Dieu a sauvé, il a traversé des périodes d'infidélité comme nous en traversons. Et lors de ces périodes, Dieu lui envoie ses prophètes et ses prophètes rappellent au peuple son œuvre de salut, l'œuvre qu'il a accomplie en leur faveur. Il leur rappelle qu'au début, ils étaient un peuple insignifiant, quelques nomades, avec quelques brebis ou quelques chèvres. Il les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Il leur a fait traverser la mer à pied sec. Il leur a permis de survivre dans le désert, ce désert hostile, ce désert affreux, peuplé, nous dit l'Écriture, de serpents et de scorpions. Et dans ce lieu, il leur a accordé l'eau en abondance. Il leur a accordé le pain quotidien. Il leur a accordé de la viande en quantité telle qu'ils n'ont même pas pu tout manger. Il les a amenés dans un pays luxuriant, un pays de lait et de miel, où ils n'avaient qu'à se baisser pour ramasser. Il leur dit, en Égypte, pour pouvoir cultiver, vous étiez forcés de pomper avec le pied, effectivement. Il fallait irriguer, on faisait remonter avec des pompes à pied l'eau du Nil pour irriguer les champs qui étaient en bordure sur les terres fertiles. Il dit, ça ne se passera pas comme ça en Canaan, parce qu'en Canaan, je déverse la pluie de ma bénédiction, tu n'auras pas besoin d'irriguer, la pluie viendra du ciel. Et ils sont arrivés, et effectivement, ils ont mangé dans des champs qu'ils n'avaient pas semés. Ils ont eu du raisin qu'ils n'ont pas cultivé. Il est aussi celui qui les a ramenés de la captivité. Israël, c'est un peuple qui est né d'un couple stérile et âgé. Mais ils étaient vieux, à 90 et 80 ans, je ne pense pas qu'un couple envisage encore d'avoir de la descendance. Surtout si la femme est stérile. Ça complique encore un petit peu la situation. Mais c'est de ce couple-là que Dieu a fait un peuple qu'il a aimé, un peuple qu'il a sauvé. Et on est forcé de constater que tout ce qui est arrivé au cours de l'histoire du peuple d'Israël était humainement impossible. Humainement impossible. Et ça me rappelle que mon salut était impossible. Voilà ce que dit l'Écriture, un autre psaume, hein, psaume 49, versets 7 et 8. « Aucun homme ne peut racheter un autre, aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. » Une autre version dit « Elle n'arrivera jamais. » Cela n'arrivera jamais. Mais Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Et ça me rappelle l'œuvre de Jésus-Christ, son œuvre de salut en ma faveur. Alors, je contemple la personne de Dieu, je contemple son œuvre en ma faveur, je l'adore avec un cœur entier, avec un cœur reconnaissant. Dans cette liturgie, il y a aussi la confession. On l'a rappelé ce matin. Dieu nous a pleinement pardonné tous nos péchés. Le sacrifice de Jésus est efficace pour tous mes péchés. Ceux que j'ai accomplis dans mon passé, ceux que j'accomplis maintenant et ceux que je vais accomplir dans le futur. Jésus est mort une fois pour toutes et c'est pour tous les péchés qu'il est mort. Son œuvre est parfaite, définitivement efficace pour pardonner et pour purifier tous nos péchés. Mais je reste conscient que je suis un être pécheur. Et ça a été rappelé ce matin dans une prière. C'est juste du réalisme. Seigneur, je continue à être pécheur. Tu m'as aimé, tu m'as racheté, tu m'as sauvé, mais le péché colle à ma peau. Hein? le péché colle à ma peau. Et alors, rester dans cette conscience de mon propre péché me délivre de bien des pièges. D'abord du piège de croire que je suis désormais quelqu'un de bien, qui peut se présenter devant Dieu sur la base de sa propre justice. Seigneur, cette semaine, j'ai été bien, hein. J'ai pas tué, j'ai pas volé. L'autre piège qui est implicite dans ce psaume, c'est de me tourner vers d'autres dieux à adorer, comme Israël l'a fait, tout en présentant à Dieu un culte formel et vide d'esprit et de vérité. Que Dieu nous garde de ça, hein, de nous appuyer sur ce qu'on croit être nos mérites, mais aussi de lui apporter un culte formel en ayant un cœur tourné vers d'autres dieux. Alors continuellement, j'ai besoin de confesser mon péché au Seigneur. Je dois rester sensible à cette question de mon propre péché. Un théologien contemporain que je lisais cet été, j'ai complètement oublié lequel et je ne sais plus dans quel livre, j'en ai lu plusieurs, affirme qu'on a un vrai problème, mais alors un vrai problème, quand le péché des autres nous dérange plus que notre propre péché. Ça fout un coup quand on lit ça, hein. On a un problème quand le péché des frères et sœurs nous pose plus de problèmes que notre propre péché. Certains autres auteurs, que je ne vous conseille pas de lire, hein, pensent que Jésus, puisque Jésus est mort pour tous nos péchés, ce n'est pas la peine de revenir constamment au Seigneur pour confesser notre péché et lui demander de nous pardonner. Je suis engagé avec Géraldine par le mariage. Il y a un lien fort entre nous. Elle m'aime et elle sait que je l'aime. Elle a du mérite, hein, depuis tout ce temps. Parce que vous savez, il m'arrive de dire ou de faire des choses qui l'offensent. Il m'arrive de la blesser. Et il m'arrive même de la mettre en colère. Alors, tout ça, ça ne remet pas notre mariage en question, n'est-ce pas ? Elle dit pas, puis il m'a mis en colère, on n'est plus mariés, voilà, on se sépare, on sera bibauche, enfin voilà, hein. Ça remet pas notre mariage en question. Mais vous comprenez que notre relation quotidienne est ternie par cela. Alors, on pourrait se contenter de ça en disant, après tout, on est mariés, hein. Mais, imaginez l'ambiance à la maison, hein. C'est pas terrible. Alors, pour rétablir une communion limpide, une communion joyeuse entre nous. Il existe ces mots simples et pourtant tellement puissants. Géraldine, je te demande pardon. J'ai eu tort. C'est pas facile à dire. Qui reconnaît facilement ses torts? Mais c'est tellement efficace. C'est l'attitude de cœur qui plaît à Dieu. Qui plaît au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai offensé. J'ai eu tort. Ainsi, on considère Dieu à sa juste valeur et nous restons constamment à notre juste place dans l'humble dépendance de sa grâce. Et moi, il me semble que c'est la meilleure place d'être constamment au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est la deuxième chose qu'on trouve dans cette liturgie qui est proposée par ce psaume. Et enfin, la troisième chose qu'on y trouve, c'est l'écoute. J'écouterai ce que dit Dieu. Et on est forcé de constater qu'on est dans une société où on n'écoute plus l'autre. Et pourtant, on a tellement de choses à se communiquer les uns aux autres. Demandez à nos jeunes, ils sont constamment sur leur téléphone avec je ne sais combien de personnes, avec de followers ou de likers, ou de je ne sais pas comment on dit, hein. Voilà, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, Twitter, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça, c'est peut-être déjà démodé, hein. Mon fils me regarde en me disant, papa, t'es... Voilà. T'as raté une ou deux étapes là. Voilà, c'est ça. Oui, il constate. Il dit, c'est bien, papa. T'as bien compris. C'est voilà. Là, c'est dur de sortir de la préhistoire, Simon. Hein. Alors, on a tellement de choses à se communiquer les uns aux autres, et pourtant, on a perdu la qualité d'écoute. Vous savez que dans les entreprises, on dépense des fortunes dans la formation à la communication. Oui, je vois. Il y en a qui s'est passé par vous, visiblement. Et tout en dépensant des fortunes, on constate qu'on ne s'écoute plus. Ça arrive même parfois dans le couple. Tu m'as entendu? Oui, oui. T'as dit quoi? Écoutez, c'est pas prêter une oreille distraite à l'autre, n'est-ce pas? Écoutez, c'est dans l'écoute il y a l'attention. Dans l'écoute il y a toute l'attention. Dans l'écoute, il y a la prise au sérieux de ce que l'on entend. Dans l'écoute, il y a aussi la mise en pratique de ce qu'on en a reçu, entendu. Jacques 1:25 nous dit, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui persévère, non pas en écoutant pour l'oublier, hein. Ça c'est le distrait, mais pour la pratiquer activement, celui-là sera heureux dans son action même. Ça rappelle aussi la parabole de Jésus. Vous savez, cette parabole sur ces deux maisons, hein, la maison construite par le sage et la maison construite par l'insensé. Ils sont en train de répéter le fou sur le sable à côté. Non, ils chantent plus, le fou sur le sable. Ça fait plus partie de... Enfin bref, et on continue à enseigner cette parabole de Jésus à l'éveil à la foi. Il met en parallèle celui qui écoute la parole pour la mettre en pratique et celui qui écoute la parole mais qui la met pas en pratique, mais qui s'abuse par de faux raisonnements. Il n'a pas besoin d'écouter la parole, lui il sait. Il a son propre raisonnement, il n'a pas besoin d'entendre l'avis de Dieu. Se mettre à l'écoute sérieuse de Dieu. On peut le faire évidemment le dimanche matin au culte, mais on peut aussi le faire dans notre rencontre personnelle avec le Seigneur. J'espère qu'elle est quotidienne pour vous. L'écouter. Prendre le temps de l'écoute. Le faire avec sérieux. Avoir, si vous me permettez cette expression, les oreilles du cœur ouvertes. Alors le Seigneur met à notre disposition plusieurs lieux d'écoute. Notre chambre, hein, c'est ce qu'il préconise à ses disciples dans Matthieu 6:6, mais va dans ta chambre. Et là, dans le secret, parle au Seigneur. Mais il y a aussi la prédication. Il y a les chants et les prières que nous avons eues ce matin. Paul nous encourage à ça. Encouragez-vous mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Mais il y a aussi d'autres temps qui sont proposés, des temps d'étude de la Bible et même les rencontres de prière. Des lieux qui sont malheureusement trop souvent désertés. Je m'étonne parfois du manque d'avidité à écouter Dieu dans l'Église. Est-ce que l'amoureux n'est pas avide de voir et de mieux connaître sa fiancée? Et inversement, est-ce qu'on n'est pas avide de rencontrer, de connaître, d'entendre la personne que l'on aime? Quelle est la conséquence à cette écoute? Par cette écoute, nous montre le psaume, nous partons à la découverte de la bienveillance et de la vérité de Dieu. Les synonymes de vérité et bienveillance sont amour et sainteté ou amour et justice. Dieu veut nous faire découvrir dans la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur l'amour de Christ. Cet amour qui dépasse tout ce que l'on peut connaître. Alors l'amour seul pourrait nous conduire dans le sentimentalisme, hein, qui peut devenir mièvre et qui peut nous conduire au laxisme. Laxisme, c'est un mot qui veut dire tolérance excessive. Alors, avec l'amour, Dieu nous instruit aussi dans la vérité et il nous fait grandir en sainteté, en purifiant notre cœur du péché. Mais la vérité seule contient en elle aussi un danger, parce qu'elle peut nous conduire dans un autre comportement qui est inapproprié, celui du légalisme, de la dureté, de l'inflexibilité, d'être sans bonté ni bienveillance. Alors, en Jésus-Christ, la bienveillance et la justice de Dieu se rencontrent de manière parfaite. Et c'est à la croix que l'amour et la sainteté, la justice de Dieu se manifestent parfaitement dans toute leur plénitude. Dans son amour, Dieu nous donne en Jésus un sauveur. Dans sa sainteté et sa justice, Dieu prononce la sentence de mort contre ce Fils bien-aimé qui a accepté de porter nos péchés en mourant sur la croix. De cette rencontre de l'amour et de la sainteté de Dieu en Jésus-Christ découle pour nous toutes sortes de bénédictions qui sont citées ici par le psalmiste, la paix, le bonheur, l'abondance, un chemin sûr vers le royaume éternel de justice, de paix et de gloire. Il est donc capital pour nous de veiller à maintenir cet équilibre de l'Évangile, bienveillance et vérité, amour et sainteté. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, à titre personnel comme communautaire. C'est à cela que Dieu travaille chez celles et ceux qui prennent le temps de l'écoute, le temps d'écouter Dieu. C'est dans cet équilibre entre amour et vérité, entre bienveillance et justice, que se trouve la paix que Dieu veut nous donner. Alors nous aspirons certainement tous à ce réveil dont je vous parlais au début. Un réveil personnel, un réveil communautaire. Alors, nous souhaitons, on en a parlé entre nous, entre responsables, on voudrait avoir cette année une réflexion sur la thématique du culte. Quel est son sens? Quel est son ordre? Quel est son contenu? Quelle doit être la bonne manière de le conduire? Et on ne vous cache pas qu'on espère un rafraîchissement spirituel dans l'Église. Un réveil. Ce réveil commence par l'écoute de Dieu. Et écouter Dieu, c'est renoncer à écouter le monde et le diable qui veulent nous éloigner de Dieu en nous promettant ce qu'ils ne peuvent pas nous offrir, la paix et le bonheur. C'est renoncer à s'écouter soi-même, à écouter son orgueil, son égoïsme qui mène à l'arrogance. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève. D'abord, ils ont écouté le diable qui leur disait « Mais vous serez comme Dieu, vous serez capable de décider ce qui est bien et mal. » Et puis ensuite, ils se sont écoutés eux-mêmes. Ils virent que le fruit était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà mon avis. Il est beau, il est agréable, il est précieux. Et on sait à quelle catastrophe cela les a conduits et a conduit toute l'humanité derrière eux. Écoutez Dieu. C'est découvrir sa grandeur et sa sainteté. C'est découvrir combien nous sommes pécheurs éloignés de lui. Combien nous sommes en besoin d'un sauveur. Cela nous conduit à la repentance et à la confession. Alors nous découvrons aussi l'immense amour de Dieu qui donne son Fils Jésus, son bien-aimé, le sauveur dont nous avons l'impérieux besoin. Recevons son amour par le pardon et la réconciliation. Nous découvrons alors ce que Dieu recherche. Dieu ne cherche pas des esclaves. Dieu ne cherche pas des serviteurs qui répondraient de manière servile à toutes ses exigences ou aux caprices qu'il pourrait avoir. Dieu est à la recherche de fils et de filles, celles et ceux qui sont appelés à régner avec lui dans la gloire éternelle. C'est pourquoi Dieu recherche notre amour. Il ne recherche jamais notre servilité. C'est par amour que nous lui obéissons. C'est par amour que nos cœurs reconnaissants lui apportent l'adoration dont il est digne. C'est par amour que nous sommes avides de sa parole de paix. C'est une réponse d'amour que Dieu attend de notre part. Car c'est à une relation d'amour qu'il nous appelle. C'est une relation d'amour qu'il veut établir avec nous. Alors que dans notre adoration, notre confession et notre écoute de Dieu, nous grandissions. nous grandissions en connaissance de sa beauté. Nous grandissions en conscience de sa perfection. Que nous grandissions en sainteté. Et que nous grandissions en amour pour lui. On va avoir un petit temps de méditation. Et on va conclure par le chant « Ta bienveillance ».